Très heureux de lancer ces états généraux de la critique de projets d'espace public.
Les enjeux de la critique, enseignement et apprentissage professionnel, avec Quentin Brouard, Étienne Ballan, Fanny Tsang et Nathan Brenu. Septième épisode des états généraux de la critique du projet d'espace public, réunis les 21 et 22 novembre 2023 à l'École de la nature et du paysage à Blois. Un podcast présenté par le réseau Critique et Projets de paysage.
Oui, donc pour introduire cette session sur les enjeux de la critique en ce qui concerne l'enseignement et l'apprentissage professionnel, le réseau Critique et Projets de paysage a prévu une petite restitution du groupe de travail enseignement qui s'est constitué il y a près d'un an exactement pour essayer d'éclairer en fait un certain nombre d'aspects sur la critique et notamment celui de son enseignement. Donc, en tant que membre du réseau, mais surtout aussi en tant qu'enseignant dans les écoles de paysage, on était convaincus que la critique était faiblement représentée dans les enseignements du projet au sein des différentes écoles et que lorsqu'elle existait, elle était faite souvent de manière assez expérimentale ou non directement présentée comme de la critique. Et donc, la volonté de notre collectif était finalement de la rendre plus visible et surtout de la coordonner en partie entre les formations. Une autre considération importante de notre collectif était d'envisager l'exercice critique comme une interface possible entre l'enseignement du projet et l'enseignement de la recherche. L'enseignement de la recherche fournissant des données utiles pour une approche épistémologique, historique ou sociale du projet, tandis que l'enseignement du projet amène l'étudiant à se former une culture référentielle et peu à peu un avis personnel et informé capable d'orienter ses propres choix de conception. Pour nous, les outils que la critique mobilise sont d'ailleurs tout aussi ceux de la conception du projet que ceux de la recherche académique. Et donc, il était important pour nous d'en donner des perspectives. Donc la première étape finalement du groupe de travail a été de rassembler pour nous les raisons de la nécessité d'un enseignement de la critique du projet de paysage dans les écoles. Et on en a dégagé quatre principales qu'on vous partage ici. La première est que cet enseignement vient dynamiser l'enseignement du projet, comme l'a précisé Denis tout à l'heure, par la compréhension de ses cadres opératoires. La visée principale des écoles de paysage est de former des conceptrices et des concepteurs à la pratique du projet. Or, celle-ci s'inscrit et se dynamise à l'intérieur d'un processus long, biologique et social, et de cadres opératoires complexes, planification, programmation, mission de maîtrise d'œuvre, négociation, concertation, et on en passe, dont les étudiants ne peuvent faire l'expérience dans le cadre de l'atelier de projet, en école sur une durée assez limitée, à quelques semaines ou quelques mois, les stages restant une expérience limitée du métier. La critique, de son côté, vient contextualiser systématiquement les projets qu'elle analyse et évalue à l'intérieur de ce processus et de ses cadres. Elle veut comprendre en quoi ce qui a été produit résulte des dynamiques, enjeux et contraintes propres à ces cadres. Un autre aspect, c'est que cet enseignement vient aussi relativiser les modèles de projets d'espace public. En inscrivant la conception dans son historicité, la critique met en évidence celle des écritures de projets. Les effets de mode, les cultures de design, les modèles sur lesquels elles s'appuient sont ici relativisés et leur capacité à fasciner les étudiants et à rabattre la conception sur un travail de dessin aménagiste est atténuée ou pour le moins questionnée. Elle est pour nous aussi importante dans le sens où elle permet de lire les effets concrets du projet dans le paysage. La critique s'intéresse aux projets qu'elle analyse et évalue essentiellement à partir de leurs résultats, c'est-à-dire des espaces que le projet produit ou qu'il induit. Elle montre l'écart, parfois important, qui se construit entre le projet tel que conçu initialement, tel que construit effectivement et tel qu'altéré finalement. En mettant la lumière sur le déploiement et sur la reconfiguration du projet dans le temps, la critique permet à l'étudiant de mieux cerner et d'interroger les conséquences sociales et environnementales de l'acte de projeter, et l'aide à prendre conscience de la visée publique de cet acte. Enfin, la critique continue le projet de paysage. On se référera ici à l'intervention de Denis, je ne développerai pas. La deuxième étape de notre groupe de travail a été finalement de conduire un état des lieux de l'enseignement relevant de la critique dans le réseau des écoles de paysage. Donc les enseignements de la critique, en fait, ils sont de deux types, principalement positionnés sur le niveau master. Il s'agit d'enseignements qui vont relever explicitement de la pratique de la critique. Alors ces enseignements ont soit disparu des maquettes pédagogiques, par exemple pour certaines écoles, ou sont présentes dans les écoles, alors sur des temporalités variables, depuis 2 ans, voire 15 ans dans certaines écoles. Certains ont fait l'objet de remaniements, je crois que c'est le cas de Blois cette année, et ils sont tantôt obligatoires ou optionnels. D'autres enseignements participent à construire les compétences qui rendent la critique possible ou à l'appliquer au projet, et c'est voici dans toutes les écoles. Ils sont très nombreux, très diversifiés, et leur analyse est encore en cours. Les enseignants qui participent à ces enseignements peuvent être membres du réseau ou pas, paysagistes concepteurs ou pas. Ils appartiennent presque exclusivement au domaine des sciences humaines et sociales. Les enseignants en sciences de la nature sont absents de ces enseignements, ce qui pose la question de la prise en compte de la dimension écologique dans la critique du projet. L'enseignement de la critique sous-tend une grande diversité de modalités pédagogiques dans les écoles, mais ce que l'on observe, c'est surtout le manque de ressources pédagogiques qui est transmis aux étudiants pour effectuer cette démarche critique. Et donc le recensement des revues qu'a commencé le réseau s'avère finalement très utile pour les écoles dans les enseignements à venir. Enfin, nous faisons le constat de l'absence de l'enseignement de la critique dans l'enseignement de la recherche. La formation au diplôme d'état de paysagiste, valant grade de master, contient un volume d'heures d'enseignement dédié à l'initiation à la recherche, mais très peu de sujets de mémoire s'en emparent. L'enseignement de la critique dans les formations des docteurs en paysage est tout autant absent. Les modules de formation doctorale relèvent des écoles doctorales qui sont majoritairement non spécialisées en aménagement du territoire. Je te laisse la suite, Lolita.
Au regard de cet état des lieux, il s'agissait de réfléchir à la manière dont on pouvait améliorer l'enseignement de la critique dans les années à venir. Plusieurs propositions ont été faites et débattues au sein du réseau. Bien sûr, c'est qu'un début. Nous en avons retenu à ce stade 3 qui s'inscrivent sur les niveaux master et doctorat, plutôt en formation initiale, dans les formations de paysagistes concepteurs et que nous vous partageons ici. La première, ce serait la création d'un workshop critique en transformant le workshop inter-école porté actuellement par le ministère de la Transition écologique en un workshop critique fédérant les pratiques dans les écoles. La création d'un module d'enseignement sous la forme de plusieurs conférences critiques que l'on pourrait partager au sein du réseau des écoles. Un enseignement qui pourrait se baser sur des ressources communes, peut-être aussi sur des formations des enseignants qui seraient communes, à proposer dans les écoles pour alimenter les enseignements qui y sont déjà menés et construire une culture commune de la critique, notamment au niveau master, mais aussi peut-être au niveau doctorat. Un programme est en cours de réflexion à l'échelle du réseau et ne demande qu'à être amendé. Enfin, l'idée de la constitution d'un jury critique inter-école afin de participer à l'évaluation des travaux d'enseignement de la critique et leur valorisation. L'idée serait notamment de pouvoir mettre en dialogue aussi les étudiants entre les écoles, peut-être dans la perspective de publication qui serait croisée. On peut citer évidemment la revue Banc Public. Ces propositions pourront être largement discutées, amendées, critiquées, notamment pour ceux qui le souhaitent dans l'atelier 3 de cet après-midi qui porte sur le développement de la critique dans l'enseignement supérieur. Est-ce que tu peux changer de diapo, Audrey, s'il te plaît ? Merci. Enfin, la quatrième et dernière étape de notre réflexion a porté sur les liens entre l'enseignement de la critique de projet et la question de la pratique professionnelle, évidemment une question fondamentale au sein des écoles. Sur la base de la compilation des enseignements de la critique dans les écoles, nous avons fait le constat que ces enseignements étaient plus ou moins installés dans les maquettes pédagogiques des différentes écoles. Comme Audrey l'a rappelé, il y a des expériences très variables entre les écoles, certaines très récentes, d'autres beaucoup plus anciennes. Il y a donc un ensemble de jeunes paysagistes diplômés qui ont pu bénéficier ces dernières années d'un enseignement critique, qu'il serait possible de questionner afin d'avoir un retour sur ce que cet enseignement leur a apporté, voir les questionnements que ça leur pose aujourd'hui dans l'exercice de leur métier et de quoi ils auraient besoin pour continuer à avoir un recul critique sur leurs projets ou sur les projets. L'idée étant de réfléchir à un enseignement de la critique dans une perspective de formation continue, qui est aussi une demande importante du monde professionnel vis-à-vis des écoles. Si l'on se place auprès des paysagistes concepteurs plus confirmés, il nous semble intéressant d'investir la réflexion auprès des paysagistes conseils de l'État. Ceux-ci sont recrutés par l'État pour accompagner ses services et établissements publics dans le cadre de missions successives d'une durée de 5 à 8 ans. Et au sein des services, ils sont appelés à tenir un rôle de conseil, d'éclairage professionnel, de pédagogie et de communication. Chaque année, un séminaire de formation leur est proposé. Il nous semble intéressant d'intervenir au sein de cette formation dans laquelle nous pourrions partager les résultats du réseau critique et de ses états généraux, notamment par le biais de projets qui ont concerné les territoires sur lesquels ils exercent. Nous pourrions envisager une discussion collective, notamment sur ce que le réseau, la formation à la critique, pourrait apporter à ces professionnels et soutenir notamment cet exercice de conseil par le biais de l'exercice critique. Mais tout ça, donc, c'est le travail du réseau. On a bien sûr envie, dans le cadre de ces états généraux, d'élargir nos réflexions et de les porter plus loin grâce à vous. Et donc, cette entrée en matière va maintenant se poursuivre avec les quatre interventions que nous avons le plaisir d'animer avec Audrey, qui nous permettront de nourrir et de débattre de l'enseignement de la critique et des apprentissages professionnels liés à cette pratique. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir Quentin Brouard, Étienne Ballant, Fanny Tsang et Nathan Brenu, que nous allons maintenant présenter successivement. Alors, Quentin Brouard est docteur en géographie sociale, une thèse soutenue en 2021 et actuellement enseignant-chercheur contractuel à l'Université d'Angers. Il est chercheur dans l'UMR du CNRS Espace et Société, spécialiste des bourgs et des petites villes en Europe de l'Ouest. Il s'attache à comprendre une géographie sociale de ces espaces en s'appliquant également à une recherche méthodologique sur la participation des publics.
On poursuit avec Étienne, je te tutoie puisqu'on est collègue à l'École nationale supérieure du paysage donc de Marseille, pour laquelle tu enseignes depuis maintenant plusieurs années à l'école. Et tu es sociologue de formation et plus récemment urbaniste. Et tu as une activité d'indépendant au sein d'un GE qui s'appelle Passage. Et tu vas nous partager ton expérience d'un enseignement de la critique que tu mènes depuis plusieurs années et qui s'intitule « Le récit critique de projet, un exercice d'investigation ». On poursuivra avec Fanny Tsang. Bonjour Fanny. Donc vous êtes aujourd'hui chargée de mission de pédagogie et de recherche à l'École des arts décoratifs, mais vous avez enseigné les sciences humaines et sociales à l'École des ingénieurs de la ville de Paris. Et vos recherches portent principalement sur la participation en art contemporain dans l'espace urbain. Et vous allez nous partager une expérience d'enseignement d'anthropologie urbaine auprès d'étudiants en génie urbain.
Et enfin Nathan, sur la droite, Nathan Brenu, qui est à cheval entre la France et l'Italie, si j'ai bien compris. Vous êtes chercheur au LASA, donc c'est le Laboratorio di Archeologia e Storia Ambientale à l'Université de Gênes, et non pas Genève, Gênes, chargé de recherche pour le projet ERC Antigone et maître de conférences associé à mi-temps à l'École d'architecture de Nantes. Vous avez des intérêts particuliers pour les questions d'histoire sociale et environnementale, notamment des paysages de montagne, des impacts paysagers et environnementaux des architectures industrielles. On peut citer la question de la production énergétique, de l'élevage intensif ou du traitement des déchets toxiques, et plus largement aussi sur la question des lieux fantômes, qui n'auront pas forcément de lien direct peut-être avec ce que vous nous présentez aujourd'hui, mais peut-être que ça intéressera dans des discussions les membres du public. Vous nous présenterez, donc, comme c'est écrit ici, justement, au sein de l'expérience que vous menez au sein du laboratoire de Gênes, des questions d'appréhension de la critique de paysage. Donc, on vous souhaite une très bonne session à tous et toutes. Je rappelle un petit peu les règles du jeu qui sont les mêmes depuis hier. Donc, c'est-à-dire qu'on va écouter successivement nos quatre invités que nous remercions encore pour un temps de 12 à 15 minutes, en essayant, s'il vous plaît, de respecter ce temps. Et on rassemblera toutes les questions plutôt en fin de session, donc avec un vrai temps d'échange avec vous, pour qu'il y ait aussi une circulation de la parole et de la pensée entre nos invités et avec vous. Voilà, merci. Et Quentin, c'est à vous.
Bonjour à toutes et à tous. Déjà, désolé, on n'est pas à Laval, comme c'est mis sur le diapo, mais j'ai repris une ancienne diapo. Et donc, je commence par mettre mon chrono en route, comme ça je suis sûr de ne pas trop dépasser. Donc, je vais vous parler des projets d'espace public dans les espaces... ça passe tout seul, c'est pas grave, on va essayer de faire comme on peut. Et pour commencer, les projets d'espace public dans les bourgs ruraux, en essayant de participer du coup à une critique des méthodes participatives, et je vous montrerai à la fin aussi à une tentative d'enseignement. Alors, j'ai fait ma thèse sur le processus de dévitalisation, revitalisation des bourgs et des petites villes dans trois régions de la France, de l'Espagne et de l'Angleterre. Et ces bourgs et ces petites villes, ils étaient intéressants parce que ce sont les plus petits éléments de la hiérarchie urbaine et donc ils sont marginalisés à la fois dans les politiques publiques, mais aussi dans la recherche académique. Donc, pour moi, c'était intéressant, surtout que c'était un maillon de l'organisation de l'espace en termes d'aménagement du territoire et de développement local. Et donc, ils connaissent des difficultés structurelles depuis des décennies, notamment suite à la périphérisation de la vie, avec l'avènement des lotissements pavillonnaires, des supermarchés, l'avènement du tout-voiture, ce qui provoque de la vacance du logement et commercial, fermeture de services publics, vieillissement de la population, etc. Et donc, en fait... ce qui se passe dans ces bourgs ruraux, c'est que en fait, ce sont les espaces les plus populaires sur l'ensemble du territoire national, donc en France. Et ici, vous avez une carte qui représente le taux de pauvreté sur les mailles de 200 mètres par 200 mètres dans un bourg ici, Isigny-sur-Mer. Et donc, vous voyez le centre-bourg qui est ici. Et en fait, on retrouve tout autour du centre-bourg et dans le centre-bourg des taux de pauvreté qui dépassent les 20% et qui peuvent même aller jusqu'à 80% de pauvreté, donc sur une maille de 200 mètres par 200 mètres. Donc ces bourgs ruraux sont populaires et en fait, on a des pratiques populaires dans ces bourgs ruraux où en plus la voiture est reine, on va retrouver des commerces et des logements vacants et en fait une ambiance urbaine qui est vue comme dégradée, notamment par les élus locaux et les catégories sociales plutôt moyennes et supérieures. Alors, face à ce constat, on a des politiques publiques qui se mettent en place, qui cherchent à contrôler l'appropriation de l'espace par les populations locales. Et l'objectif, donc, c'est de réaffirmer le centre-bourg comme intégrant des pratiques entièrement locales, mais aussi dans le même temps de contrôler l'ambiance d'achat et donc l'ambiance des pratiques quotidiennes. Alors, je le disais, il y a des problèmes de vacances du logement dans ces bourgs. Et pour résorber cette vacance, du coup, il y a trois actions qui sont mises en place. C'est bien sûr la rénovation du bâti avec les OPH, mais aussi par la réhabilitation symbolique des catégories supérieures. Et ces rénovations ne s'attachent pas qu'à l'intérieur des logements, mais aussi, bien souvent, à l'extérieur des logements. Et du coup, notamment par la rénovation de façades. Et l'objectif, donc, c'est de moderniser l'ambiance d'achat de ces bourgs. Dans le même temps, on va démolir du coup du bâti, et cette démolition de bâti, ça va principalement être sur des logements sociaux et des logements dégradés. Ce qu'on peut noter, et vous avez la citation ici, où en fait vous avez la maison Tolmer ici, qui est un grand bâti dans le centre-bourg de Perrier dans la Manche. Et ce bâti, en fait, il est dans le centre-bourg et il bloque l'accès à un grand parc, à l'accès visuel, à un grand parc qui se situe derrière. Et donc, dans un objectif de permettre l'accès et la visibilité des espaces verts dans le bourg, le maire, il se dit lors d'une réunion, il faut détruire la maison Tolmer pour que le parc Tolmer arrive dans la ville. Et il y a la réaction d'un élu qui est aussi président de l'association de sauvegarde des bâtiments qui dit non, faut pas y toucher. Donc ce qu'on peut voir, c'est que donc les démolitions, donc je l'ai dit, elles concernent les logements sociaux et les logements dégradés. Mais par contre, dès qu'il s'agit d'un bâtiment issu plutôt des catégories supérieures, il y a une volonté, du coup, enfin, il y a des, comment dire, il y a des réactions pour pas que ça se fasse. Et d'ailleurs, ça ne s'est pas fait. Et dans le même temps, dernière solution pour résorber la vacance, c'est la patrimonialisation. En Normandie, on a beaucoup de bâtis de la reconstruction, donc post-Seconde Guerre mondiale. Donc c'est patrimonialisation. Ce bâti. Et en premier, on commence par le patrimoine plutôt extraordinaire, puis le patrimoine ordinaire. Donc l'objectif de ces actions, c'est de remettre une modernité dans le centre-bourg et surtout d'évacuer en quelque sorte le bâti des catégories populaires, le rénover, et plutôt essayer de mettre en valeur le bâti des catégories supérieures. Et c'est aussi contrôler l'ambiance d'achat, et notamment des commerces et des commerçants, où en fait, il y a des problèmes de vacances du logement, il faut essayer de faire revenir des commerçants, mais du coup, on va contrôler quels commerçants et quels commerces on remet, et aussi on va jusqu'à contrôler du coup leur mise en avant de leur vitrine. C'est ce que vous voyez à travers cette citation, ou finalement à travers la charte, la mise en place de chartes pour... la mise en place de chartes, de démontures de vitrines, etc. En fait, l'objectif dans une optique patrimoniale donc que j'évoquais avant, l'objectif, c'est bien de contrôler entièrement l'ambiance d'achat pour que en fait, ça corresponde à un objectif patrimonial et aussi à un objectif d'ambiance d'achat des catégories supérieures. J'ai pas le temps de développer, désolé, ça passe vite. Alors, d'arriver à tous ces constats sur le contrôle de l'ambiance d'achat, etc., ça passe en fait notamment par la mise en place de participation à des projets d'espace public. Et ces projets d'espace public, en fait, qu'est-ce que va faire la mairie ? Alors, elle peut faire une simple communication dessus à travers des lettres d'information, des réunions publiques, etc., mais aussi par des démarches de construction du projet en mettant en place des ateliers participatifs, des diagnostics en marchant, cartes participatives, et voire même des résidences d'artistes urbaniste sur le long terme. Mais le problème, et ça je l'ai vu dans les bourgs et c'est aussi grandement présent dans la littérature scientifique, c'est que les participants à ces démarches de co-construction sont plutôt issus des catégories moyennes et supérieures, et les catégories populaires y participent très peu. Donc c'est ce que j'ai retrouvé dans les bourgs et les petites villes, où en fait, si on reprend l'échelle des participations d'Arnstein, en fait généralement on est dans de la non-participation, voire de la coopération symbolique. Et en fait pourquoi ? Parce que on est plutôt dans de la concertation qui est encore monologique et qui s'inscrit dans une logique représentative, c'est-à-dire que même s'il y a de la co-construction, etc., derrière, ce sont les techniciens et les élus qui choisissent les projets qui conviennent le mieux et non les habitants et les usagers qui ont participé finalement à cette démarche de co-construction. Et donc, alors qu'on pourrait être dans une concertation qui est plus dialogique, et c'est-à-dire d'essayer de constituer vraiment un espace public au sens habermasien, c'est-à-dire où en fait les choix publics locaux peuvent être discutés, débattus entre les élus, les fonctionnaires, et aussi en incluant les citoyens, et que ça ne soit pas les citoyens les élus et les agents qui aient le dernier mot derrière, mais du coup que ça soit bien une co-construction et avec du coup les citoyens. Alors du coup c'est ce qu'on essayait avec un collègue lors d'une démarche PopSU que j'ai pas le temps de vous présenter là-dessus ce que c'est que le PopSU, mais en fait c'était une recherche-action participative au sein d'un centre-bourg. Et donc notre objectif c'était d'accompagner la mairie dans sa politique d'investissement pour revitaliser le centre-bourg, et donc pour essayer que du coup ça soit de façon inclusive à la fois socialement et générationnellement. Et donc à travers ce projet, finalement je suis passé de la théorie et notamment de la critique des projets de participation des publics à du coup la pratique personnelle, où je me suis retrouvé à faire participer différents publics pour essayer en fait d'accompagner la mairie et justement de co-construire vraiment un projet avec la mairie. Alors, du coup, cet objectif d'accompagnement de la mairie, elle s'est faite à travers différentes méthodes, entretien, focus group, et des ateliers sur carte participative, où je vais pouvoir revenir un petit peu pendant les deux minutes qui me restent. Donc, pourquoi est-ce qu'on a constitué une carte participative ? En fait, c'est pour, en premier, concrétiser les récits et les référentiels co-construits par les habitants au fur et à mesure, donc dans les groupes de discussion, les différents ateliers. Alors, même si c'est un outil qui est maintenant classique dans l'aménagement et l'urbanisme, cette spatialisation, finalement, des récits, notre force à nous, c'est que, en fait, on est resté plus de 2 ans sur le terrain et on y est encore avec un artiste, d'ailleurs. Mais du coup, on a pu rencontrer à peu près 100 de personnes, ce qui nous a permis finalement de vraiment essayer d'avoir un public le plus diversifié possible. Et donc, finalement, essayer d'être un petit peu représentatif de l'ensemble de la population en allant voir toutes les catégories de la population, des jeunes, des personnes âgées de plus de 75 ans, des commerçants, des artisans, des dirigeants d'entreprise et des catégories populaires. Et là où, pendant les deux dernières minutes qui me restent, j'en arrive à la thématique de l'atelier de Désolé, c'est que finalement, on s'est dit, cette carte participative, c'est bien, nous, on la met en place. Mais finalement, comment est-ce qu'on peut la pérenniser et comment est-ce qu'on peut pérenniser finalement les méthodes participatives? Et donc, on a mis en place, en fait, on a formé la chef du projet de revitalisation du bourg à cet outil et on a réussi à pérenniser du coup cet outil en tant qu'outil papier, c'est-à-dire que, du coup, pour... j'ai pas mis la diapo, en tant qu'outil qui est papier, c'est-à-dire qu'à l'entrée de la mairie, il y a du coup ces cartes-là qui sont affichées et du coup qui sont où tout à chacun, tout citoyen peut venir mettre les problèmes qu'il y a d'aménagement dans le centre du bourg. C'est en libre accès, c'est aussi disponible en ligne. Et en plus, il y a la mise à disposition d'un cahier d'expression. Donc, tous les citoyens et les usagers qui passent par la mairie peuvent mettre un post-it rouge pour faire une remarque ou vert pour faire une proposition. Et avec un accompagnement, si besoin, par un agent. Du coup, la chef de projet PVD fait un relevé mensuel et une actualisation du relevé en ligne. Et du coup, cette carte est consultable sur le site internet de la mairie. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est que finalement, cette pérennisation de l'outil de la carte participative, c'est un bon moyen finalement à ce que tout à chacun puisse continuer à parler, à la fois sur l'espace public en tant qu'aménagement, mais aussi de constituer un espace public de parole pour chacun. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que effectivement, en dehors des moments de concertation sur des aménagements, le public participe peu finalement à essayer de mettre des commentaires sur cette carte. Par contre, dès qu'il y a un projet d'aménagement, une réunion publique, c'est là où finalement les citoyens prennent en compte cette carte et viennent y mettre des remarques. C'est là qu'on voit que en fait, dès l'instant où par exemple les chercheurs ou la chef du projet part, une absence d'espace public. Et donc, ce qui nous pose question, c'est comment est-ce que finalement, même quand il n'y a pas des projets d'aménagement, comment faire, parler les citoyens sur l'aménagement quand même du bourg, en sachant qu'on a une deuxième limite, c'est que, sauf si on va chercher les catégories populaires, et de plus en plus, en fait, finalement, sinon elles ne viennent toujours pas d'elles-mêmes, malgré qu'on les ait formées au fur et à mesure à participer, elles ne reviennent pas d'elles-mêmes pour inscrire des choses sur la carte. Donc ça nous pose encore question, et c'est pour ça qu'on est encore sur place, avec un travail artistique autour de la mémoire d'un arbre, parce que finalement, c'est pas encore suffisant, c'est pas en mettant une fois les gens devant une carte qui vont rester dessus. Donc voilà, et en conclusion, du coup, pour moi, ce qui est important, du coup, c'est certes l'enseignement de la critique participative dans l'enseignement supérieur, mais aussi l'enseignement des critiques des méthodes de participation auprès des professionnels qui sont au niveau local. Voilà, et je ne sais pas si ça peut être une piste de réflexion, mais en tout cas, pour moi, il y a un gros manque de critique des espaces publics dans les formations des professionnels en urbanisme par rapport à ça. Je vous remercie de votre attention.
Bonjour à tous. Donc, voilà, je m'appelle Étienne Ballan, j'enseigne à Marseille, sociologue et urbaniste, comme l'a dit Audrey. Je vais essayer de vous décrire un exercice que je mène depuis maintenant une quinzaine d'années à l'école. Je voulais quand même d'abord remercier vraiment le réseau dont je suis les travaux à distance, ou plutôt par intermédiaire de mes collègues. Mais c'est très agréable quand même d'avoir l'opportunité de venir ici et d'échanger et de partager ce qu'on fait les uns les autres. Donc je voulais vraiment vous remercier pour cette opportunité. Concrètement, ça s'appelle donc récit critique de projet ou récit critique de projet urbain. Pourquoi ? Je vais peut-être poser les choses en disant tout de suite que c'est un exercice qui a été monté en 2009. Donc c'est pas tout jeune, on doit être à la 15e année du coup de récit. Au départ, les objectifs en fait et la forme d'exercice n'ont pas énormément bougé depuis le départ. Donc je vais rappeler vite fait les objectifs. La première des choses, c'est cette question de la culture de projet, d'aider l'étudiant à se constituer une culture de projet. Donc ça vient vraiment dans un fil et dans un ensemble d'enseignements et d'exercices. Ça a été dit hier matin, mais c'est vraiment la question de sortir aussi du promotionnel, c'est-à-dire de faire en sorte que l'étudiant prenne une distance critique par rapport à ce qu'il peut lire dans l'essentiel de ce qui lui est donné à voir, et en particulier les sites internet des concepteurs, mais pas moi qui le dis, hein, le concepteur hier matin qui disait qu'il baignait en permanence dans la promotion. On peut peut-être ajouter l'autopromotion, parce que c'est ça en fait finalement la grande particularité qui est vraie dans plein de métiers, mais la force des métiers de l'aménagement, c'est qu'ils s'autopromeuvent par l'image, donc c'est encore plus fort. Donc on a vraiment une logique de publicité permanente, et donc qui dit pub dit mensonge. Hein. Donc par définition, on a besoin finalement d'aider l'étudiant à sortir de ce bain-là. Le point important, c'était aussi de se situer dans l'évolution de la commande. Il vous aura pas échappé que les années 2000 et 2010 ne sont pas tout à fait les mêmes du point de vue de l'enseignement du projet de paysage que les années précédentes. La décentralisation, elle a eu lieu, les moyens du projet local sont plus tout à fait les mêmes, question notamment d'économie et de budget, d'investissement, plus récemment le recours à l'urbanisme tactique ou transitoire, ou un certain nombre de choses, voilà, font que globalement, le projet, c'est pas seulement venir répondre à la commande politique d'un maire puissant qui souhaite montrer qu'il l'est et qui a l'argent pour le prouver. Et l'autre point, c'est cette question de la complexité, c'est-à-dire de faire comprendre qu'effectivement, le concepteur n'est pas simplement il n'arrive pas sur un terrain vierge pour imposer son idée. Assez souvent encore, hein, on a dans les écoles de projet un peu l'idée que une idée simple, l'intuition géniale du créateur, et puis on le dit simplement à l'ensemble des partenaires, ils vont comprendre, parce que c'est tellement génial que toutes les façons. Et puis de toute façon, si on leur disait que c'était compliqué, ils ne comprendraient pas parce qu'ils sont un peu bêtes. Ça a été dit ce matin par Denis. L'autre point, c'est aussi évoluer du modèle du paysagiste maître d'œuvre, concepteur maître d'œuvre, vers une définition plus large des champs d'exercice du métier. Et là, très clairement, alors, en l'occurrence, le référentiel du DEP a évolué depuis 2009 et notamment aujourd'hui introduit explicitement celle de le paysagiste de la maîtrise d'ouvrage. Et puis enfin, dernier point, cette question de la curiosité qui est quand même finalement pour tout enseignant, me semble-t-il, une sorte d'horizon d'idéal. Alors, jamais vraiment atteint, on trouve que les étudiants ne sont jamais assez curieux. Mais enfin, mine de rien, c'est quand même à ça qu'on... Je pense que c'est peut-être le point qui nous rassemble tous, c'est d'essayer de rendre l'étudiant le plus curieux possible, et notamment pour le détail, c'est-à-dire que c'est une curiosité que l'exercice va essayer de t'orienter. À quel moment de la pédagogie ça se trouve ? Ça se trouve en fin de DEP 2, donc pour ceux qui sont... Tout le monde sait ce que ça veut dire, mais on est en niveau Master 1. Ah, le micro ne marche pas. Oui. Dans un processus pédagogique, bon, en gros, les questions d'espace public ont déjà été abordées par le projet quelques semaines ou quelques mois avant. On est en parallèle d'un exercice plus classique de conception de parc. Donc toutes les écoles, à un moment donné, souvent ont à un moment donné ça, cet exercice-là, ce projet-là. Et en même temps, d'un voyage international qui est justement un voyage qui aussi est une forme de lecture de projet, de lecture d'espace, et avec une dimension critique. Et enfin, en amont, et quelque part en préparation du stage professionnel de fin de DEP2, parce qu'on va voir que c'est un peu une façon de déniaiser nos étudiants, si j'ose exprimer ainsi, ça ne va pas leur plaire. Mais il y a effectivement quelque part de ne pas vous lâcher dans le stage pro avec, on va dire, une naïveté trop importante qui amènerait à des convenues trop fortes. Donc il y a quelque chose là aussi de se poser en posture critique pour faire d'une certaine façon un meilleur stage et pour être aussi avoir un regard critique dans le stage, parce que dans le rapport de stage, on va demander aussi évidemment une posture critique sur la structure et le travail qui a été mené. Donc voilà un peu le fil pédagogique dans lequel on s'inscrit. On a une fiche, évidemment, une fiche d'exercice, donc j'ai juste sorti quelques petits éléments. De quel projet est-ce qu'on parle ? Bon, projet urbain, espace public, parc, etc. Terminé depuis moins de 20 ans. C'est la seule... Parfois, certains étudiants me demandent un projet qui n'est pas complètement fini, mais parce que bon, voilà, je refuse. Il faut que le projet soit observable dans une phase, on va dire, après livraison. En tout cas, il est déjà un petit peu de vie. Le deuxième point, c'est le point essentiel, et c'est ce qui explique le titre de récit critique, c'est que dans un même texte, on va demander à l'étudiant de raconter l'histoire du projet et en même temps de le critiquer. Ça, c'est vraiment... C'est le nœud du système. C'est très compliqué. C'est un exercice d'écriture. C'est un exercice qui a une prétention même un peu littéraire, parfois. Et donc, comment est-ce que je fais pour être à la fois clair, net, objectif, et en même temps raconter une histoire, faire comprendre par le récit le projet. Enfin, la contrainte, c'est du texte. Le texte. 5 pages minimum, pas d'image. Vous imaginez bien que ça, c'est l'enfer pour les étudiants paysagistes. Pas d'image dans le corps du texte. En revanche, un travail sur les images et sur les documents, c'est-à-dire qui consiste à constituer une annexe d'illustration et de documentation du projet, qui peut être de toutes sortes d'images d'ailleurs, y compris celles produites par l'étudiant s'il souhaite en produire, ce n'est pas une obligation, et ce n'est même pas spécialement encouragé, c'est plutôt logique de compiler, mais surtout de choisir la documentation. Le point important de cet exercice, c'est que c'est une critique vraiment extrêmement ouverte à 360 degrés. Vous allez voir dans la petite liste là, extrait de la fiche, y a à peu près tout, en gros, il faut tout regarder. L'ensemble du processus, depuis les prémices, donc les volontés politiques, les projets antérieurs, toute l'histoire finalement territoriale qui précède le projet et jusqu'à l'observation des usages une fois réalisé. Donc en quelque sorte, on demande à l'étudiant de parcourir cette sorte d'immense continuum entre l'archéologie de la commande, et je parle bien d'archéologie, c'est bien comme ça que j'exprime les choses, et l'observation des usages et des transformations ou des altérations, c'est pas forcément le terme que je vais employer, mais c'est bien cette logique-là. Le travail est un travail individuel. Alors ça, c'est une question que je me suis longtemps posée, mais on a beaucoup de travaux en groupe à l'école, et on essaye quand même d'avoir un certain nombre de travaux qui sont proprement individuels pour aussi mieux se situer et mieux permettre à l'étudiant de se situer dans son apprentissage. C'est assez peu encadré, voire très peu encadré. C'est quand même 3 à 4 mois de travail possible entre le moment où on lance l'exercice et le moment où il faut le rendre. Donc c'est un exercice long, en parallèle de l'ensemble des autres enseignements. Le choix du projet est validé par l'enseignant. Je donne des documents, des promos antérieurs pour qu'ils comprennent la consigne, parce qu'en général, à la première lecture de la fiche, j'ai pas complètement la certitude que tout le monde a compris ce que je demandais. Depuis 2021, depuis 3 ans, maintenant 2 ans, 3 ans, on articule ça avec des apports autour du projet de paysage et de la culture de projet par Jean-Baptiste Lestra, qui est ici, Alexandra, qui aurait dû être là, mais qui enseigne à l'école d'archi à Marseille. Et puis on organise une séance de récit critique sur site, c'est-à-dire en gros, on va sur le parc du 26e centenaire à Marseille, qui est extrêmement intéressant parce qu'il est très didactique. On peut tout voir, on voit aussi bien les intentions du concepteur, tous les dysfonctionnements qui ont suivi ça, toutes les intentions politiques qu'il y a derrière le projet, la dimension d'un parc qui est en fait un outil de promotion immobilière, pour le dire tout à fait clairement et honnêtement. Ça permet de changer aussi l'échelle du projet et de bien comprendre que c'est dans un contexte urbain, politique, économique, etc. Et bien entendu, la visite du site qui va être du projet va être évidemment obligatoire. Alors, l'exercice, en gros, j'essaye de le résumer, de le décomposer. Bon, ça, C'est en fait un peu plus mélangé que ça, hein, mais si je le décompose, voilà en gros les quatre étapes que je demande aux étudiants. D'abord, observer et documenter, le travail de documentation. Ça, c'est vraiment le boulot essentiel. Ne pas se contenter de voir, mais vraiment aller chercher les éléments. La dimension investigation, donc c'est beaucoup d'entretiens en fait, avec les acteurs, de discussions avec les habitants. C'est laissé à la libre appréciation de l'étudiant. Hein. Je donne des possibilités, mais voilà, ils vont pas me faire une enquête quantitative. Enfin, rarement sur les usages ou les perceptions du projet, il ne faut pas exagérer. Par contre, c'est vrai que l'entretien avec la maîtrise d'ouvrage et avec le concepteur, il est assez souvent fait. Pas, pas dire 100%, mais il est assez souvent fait. Ensuite, raconter, analyser en même temps. Donc, c'est ce texte à la fois littéraire et critique. Et puis enfin, l'illustration, j'en ai déjà parlé. Alors, comme, exactement comme avec mes étudiants, je fais, hein, quand je présente l'exercice, je vais vous donner des documents des anciennes années. C'est Jean-Baptiste qui m'a dit qu'il fallait venir avec du concret. Alors je te laisse, vous faites passer ça. Il se fait que c'est plutôt des exemplaires un peu anciens, parce que depuis 2-3-4 ans, évidemment, je fais comme tout le monde, je corrige à l'écran, ce qui est très désagréable. Mais donc j'imprime de moins en moins. Donc là, j'ai récupéré des choses qui datent entre 2013, 2017, 2018, enfin, c'est un peu ancien. Vous avez à l'écran un petit exemple un peu rapide. Alors c'est pour ça que visuellement, franchement, c'est pas passionnant à montrer. C'est pour ça que je vous en montre un. Vous avez ce texte-là, vous avez ces 6 pages de texte. C'est vraiment voulu comme une lecture continue. À l'intérieur, vous allez avoir l'ensemble des renvois aux annexes. Donc la lecture était vraiment une lecture très, très classique, presque d'article. Voilà, c'est-à-dire que les annexes sont vraiment au service du texte. Et c'est bien le texte qui pilote et qui conduit absolument le lecteur. Avec du coup une liberté du coup dans le texte. Alors, le texte n'est plus finalement chapeauté par l'image. Le texte a sa propre logique et donc l'étudiant doit réfléchir à l'articulation dans le texte et faire quelque part œuvre avec ce travail. Je ne rentre pas dans le détail. Vous avez ici, je crois que d'ailleurs ça ne rentrait pas, j'ai dû bouffer une ou deux pages, je m'en excuse, mais vous voyez tout à fait le type de documents qu'on peut avoir en annexe, des photos historiques, des plans de situation, des documents de projet. Là, c'est le courrier d'une association de riverains. Attention, l'étudiant doit choisir. Je ne veux surtout pas 5 pages de texte et 50 pages d'annexe. Ça, c'est hors de question. Je leur dis très clairement, d'ailleurs. Ce que je veux, c'est un choix. Je veux vraiment les illustrations et documentations qui sont pertinentes pour le texte. Je ne cherche pas à avoir toute la documentation sur le projet, sinon vous imaginez bien que... Voilà, donc les annexes, c'est aussi un choix éditorial. Si je tente un petit bilan, d'abord quantitatif, en quelques mots. Alors, bah, ça y est, j'ai fini en plus. Voilà, donc je m'étais mis moins de temps. Comme ça, j'avais plus de temps. Après. J'ai mon petit rab. J'aurais pu mentir, Audrey, j'aurais pu dire que j'avais... Mais bon, ça marche. Tu m'as surveillé, je sais. Aujourd'hui, on a à peu près un total de 230 récits critiques. J'aurais voulu avoir un chiffre plus précis, mais très sincèrement, j'ai essayé de faire l'exercice de tout reprendre, de tout recompiler. Évidemment, il y a des trous. J'ai encore quelques trous dans ma base de données. Donc, c'est à peu près 230 récits. Pour l'essentiel, effectivement, plutôt quand même des récits d'espace public. Et puis, beaucoup de parcs et jardins, pour une raison simple, c'est qu'à certaines années... Pour mieux connecter l'exercice à la pédagogie, je vais demander à ce que les projets soient tous des projets de parc, notamment quand c'est vraiment plus en lien avec la séquence pédagogique sur le parc qui est en train de se dérouler en même temps. Pour que les étudiants soient pas forts, qu'il y ait un peu une correspondance, on va dire, entre cet exercice et le projet. 10% sur des grandes opérations d'aménagement, des projets urbains complexes, et puis un petit peu sur les projets d'infrastructure ou d'équipement. Géographiquement, un bon tiers sur Marseille, mais en fait, c'est assez marrant parce que c'est aussi l'occasion pour les étudiants de revisiter des lieux de leur histoire personnelle, de leur ville d'origine, qui ont fait l'objet de renouvellement et tout ça, ou de réaménagement. Donc c'est souvent... moi, je les laisse assez libre pour ça, donc j'ai des projets à peu près partout. Assez peu à l'étranger, par contre. Et puis, j'ai des projets récurrents que maintenant, j'interdis parce que j'en peux plus. J'ai lu 10 fois le Fort Saint-Jean, j'ai lu 10 fois le Paillon, j'ai lu 10 fois la Place de la République. Donc, j'ai maintenant une liste de projets que j'interdis parce que je ne veux plus les lire. Alors, Jean-Baptiste m'a rejoint depuis 2 ans sur la correction, donc je pourrais lui filer les trucs, mais je suis sympa, j'interdis d'emblée. Bon, il y en a quelques-uns comme ça, mais bon, voilà. Mais non, il n'y a pas tant de récurrence que ça. Très sincèrement, ils vont chercher vraiment des choses assez variables. Alors, sur le bilan qualitatif et plus un peu pour la discussion, d'abord, c'est que. Oui, J'ai encore... Ok, alors j'ai plus... c'est mon avant-dernière diapo, je vais faire très vite. Investissement important et aussi de la frustration. C'est-à-dire que, pourtant je donne 4 mois, hein. c'est pas rien, mais en termes d'organisation, de lien avec les choses, bref, ils sont toujours dans le jus au moment de le rendre et ils disent « mais c'était génial, j'aurais tellement voulu aller plus loin ». Exercice flottant, c'est pas très facile d'intégrer un exercice long dans une pédagogie qui est plutôt sur un rythme un peu plus rapide. Ça, c'est une vraie difficulté. Et puis, dernier point quand même, c'est essayer de donner de l'écho à cet exercice dans les enseignements de l'année suivante, notamment dans la séquence Villeneuve avec Jean-Baptiste à nouveau, où je fais des sorties essentiellement sur terrain et où on peut répliquer un petit peu cet exercice. Sur les acquis aujourd'hui de cet exercice, et sous réserve d'évaluation auprès des étudiants qu'il faudra faire et que le réseau envisagerait de faire, moi je crois que oui, globalement, un objectif qui est à peu près atteint, c'est que le projet, c'est pas l'acte du concepteur. Voilà, c'est beaucoup plus large, ça commence bien avant, ça se termine bien après. Le concepteur n'est qu'un parmi d'autres. Le projet est un processus interactionnel essentiellement. Et ça, c'est intéressant, ça permet aussi de dédouaner, enfin quelque part, de sortir du focus et du rapport seulement au concepteur, qu'on a pas mal vu quand même hier, il me semble, notamment hier matin, ça permet vraiment de sortir de ça, et ça, je pense que c'est assez intéressant. La réplicabilité, c'est ces deux questions que je voulais vous poser sur la table rapidement. Est-ce que c'est réplicable? Est-ce que j'ai le temps de faire un récit critique de projet dans ma vie professionnelle? Il y a sûrement des choses qui restent, mais assez vite quand même, on a un petit travers dès qu'on est professionnel, c'est que quand on a vu 10 projets, on pense que le 11e, on le connaît juste en le regardant un coup. Et ça, c'est vraiment très grave pour moi. C'est-à-dire, je me dis, mais mince, non, s'ils n'ont pas appris qu'en fait, non, que le regard même affûté n'est pas la compréhension du projet. Et ça, c'est un vrai défi, parce que combien de professionnels voient un site et disent, ça y est, j'ai tout compris, j'ai vu, machin, ça c'est ci, ça c'est ça, ça c'est truc. Non, ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut discuter. Et l'élargissement du champ d'exercice, ben voilà, c'est une modeste contribution, moi je crois assez à cette nécessité d'élargissement, et pas au détriment du concepteur d'ailleurs, hein, vraiment, ou du concepteur maître d'œuvre, mais au contraire d'un enrichissement de son métier. Je considère que le récit critique, c'est une façon de proposer une autre carrière aussi aux paysagistes, et de leur dire, un peu comme les magistrats, vous le savez, sont tantôt du siège et tantôt du parquet, les paysagistes peuvent être tantôt de la maîtrise d'œuvre, tantôt de la maîtrise d'ouvrage, et tantôt encore d'autres choses, et de l'accompagnement, et de la co-construction, et que ce récit critique, c'est vraiment une petite graine là, pour essayer de leur proposer finalement de ne pas rentrer dans un modèle trop établi, mais d'être des paysagistes un peu migrateurs dans leur vie professionnelle. Merci.
Bonjour tout le monde. Alors moi je vais vous parler d'une expérience pédagogique d'enseignement d'anthropologie urbaine dans une école d'ingénieurs. Alors, si touchant la terre à Trude, je n'avais pas lu le nom de la ville écrit en grandes lettres, j'aurais cru que j'étais arrivée au même aéroport d'où j'étais partie. C'était la première fois que je venais à Trude, mais je connaissais déjà l'auberge dans laquelle je descendais. Pourquoi venir à Trude, me demandais-je, et je voulais déjà repartir. Tu peux prendre un vol quand tu veux, mais tu arriveras dans une autre Trude, identique point par point. Le monde est recouvert par une seule Trude, qui ne commence ni ne finit, seul le nom de l'aéroport change. Dans son ouvrage « Les villes invisibles », Italo Calvino affirme qu'il n'y a pas de sens à recourir aux catégories des villes heureuses et malheureuses pour les classer, et propose de recourir aux catégories suivantes. Les villes qui parviennent, au fil des années et des changements, à donner forme aux désirs des habitants, et celles où les désirs sont effacés par elles. Autre manière de critiquer le développement toujours plus uniformisé des villes où les désirs des citoyens, qui aspirent à vivre ensemble dans des espaces agréables et singuliers, sont empêchés. La formation des étudiants en génie urbain participe à bien des égards à cette uniformisation. Et cette communication vise à décrire et analyser une expérience donc d'enseignement d'anthropologie urbaine à ces étudiants qui fabriquent la ville. En tant que praticiens, ils sont aux prises avec des dimensions concrètes, tant programmatiques que spatiales, de l'aménagement des espaces publics. Ils sont confrontés à des contraintes temporelles, techniques, écologiques, politiques, etc. et, in fine, à une obligation de résultat. Ces nombreuses contraintes, ainsi que le profil des étudiants, nous allons le voir ensemble, qui sont plutôt praticiens que théoriciens, rend difficile une critique féconde des projets d'espace public, pourtant indispensable à la mise en œuvre de projets qui vont favoriser, à tous les niveaux, la confrontation à autrui et l'expression d'un pouvoir d'agir citoyen. Ici, dans notre expérience, il nous a semblé qu'il était vain de faire fi du profil des étudiants praticiens dont la motivation à travailler est moins le discours critique que l'action concrète. La question est donc la suivante. Comment former des praticiens, en particulier des ingénieurs en génie urbain, à la critique de projets d'espace public? Alors, avant de répondre à cette question, je vais faire un petit détour par le programme pédagogique des étudiants pour montrer que la mise en œuvre d'une critique est une tâche qui ne va pas de soi, parce que la place des sciences humaines et sociales dans le parcours des étudiants ingénieurs de l'école où j'étais est très faible. Donc en première année, il y a un cours qui est dédié à l'histoire et l'évolution des formes urbaines et des sociétés. En deuxième année, on a deux cours qui abordent plus précisément les espaces publics, donc un cours qui est intitulé « Gestion de l'espace public et des patrimoines techniques » et puis un cours de participation citoyenne et co-construction. C'est dans ce cadre qu'on a introduit le cours d'anthropologie urbaine dont je vais vous parler juste après. Et puis, en troisième année, on a des cours relativement importants puisqu'on a une soixantaine d'heures qui sont consacrées à un cours qui s'appelle « Concevoir l'espace public ». Et puis, les étudiants ont un projet d'aménagement urbain au dernier semestre d'études. Où ils vont devoir aménager un espace public dit de proximité dans la ville de Paris, et cela en collaboration avec une mairie d'arrondissement. On sait effectivement que la place accordée dans l'ensemble de ces enseignements à la critique est assez mince, ce que confirme effectivement une analyse rapide du lexical du syllabus de cours, puisque on y observe que si les termes d'espace public sont présents une cinquantaine de fois, celui de critique n'apparaît que 9 fois et jamais en lien avec la notion d'espace public. Du coup, il nous a semblé que ce programme pédagogique renforce en fait les difficultés des étudiants ingénieurs qui sont peu familiers des sciences humaines et sociales en raison d'un parcours scolaire très tôt orienté vers les mathématiques et les sciences physiques, mais aussi les sciences de l'ingénieur, pour affronter la complexité mouvante des situations réelles. Il faut signaler que les étudiants dans l'école sont recrutés après des prépas scientifiques. Et puis, ce qui nous a semblé aussi important et qui semble empêcher une critique des espaces publics, c'est les outils de travail de l'étudiant ingénieur, qui sont principalement les logiciels informatiques et, en termes de représentation, qui utilisent beaucoup les plans et les coupes, ce qui a tendance à renforcer une posture d'optimisation et de contrôle des situations et des espaces, ou en tout cas de donner l'impression. D'une part parce qu'il laisse peu de place à l'autre d'autre part parce qu'il laisse peu de place à la dimension sensible et vécue des espaces. Et finalement, le vocable pour décrire les espaces s'en tient bien souvent à des descriptions relativement formelles et techniques qui le découpent en termes de voirie, de carrefour, de stationnement, de tram bleu, de tram verte, etc. Et les diagnostics sensibles qu'effectuent les étudiants lors de leur projet d'aménagement urbain révèlent les difficultés qu'ils ont à dépasser cette perception relativement segmentée de l'espace et mènent souvent à la photographie d'un espace donné plus qu'à une vue dynamique. Alors, je peux vous montrer quelques exemples de travaux étudiants où on voit effectivement qu'ils ont tendance à très peu se déplacer dans les espaces qu'ils vont aménager, puisque ce qu'on retrouve dans leurs travaux, ce sont des captures d'écran Google Maps pour présenter les espaces qu'ils vont aménager. Ils utilisent aussi souvent le plan, ce qui est par ailleurs quelque chose de nécessaire, mais c'est simplement pour vous dire que c'est les outils principaux et parfois les seuls outils. Donc on a aussi des coupes. Et puis, alors, ils vont parfois effectivement aller vers des choses plus sensibles, d'analyse des matériaux, des couleurs... etc. Mais on a voilà, la présentation montre aussi que ils perçoivent les choses de manière très distincte les unes des autres et que c'est pas relié dans un ensemble en réalité. Idem par exemple pour le mobilier et les usages que les gens vont pouvoir faire de l'espace qu'ils vont aménager. Et pareil, la découpe de ces choses-là sans vue d'ensemble me semble, a priori, assez problématique dans le cadre de la mise en œuvre d'une critique de l'espace public et de son futur aménagement. Alors, on a évidemment des choses plus sensibles, aussi avec une approche plus artistique, mais c'est extrêmement rare. Et donc, c'est dans ce cadre que j'ai, avec l'équipe d'enseignants en sciences humaines, décidé de mettre en œuvre un cours d'anthropologie urbaine, donc qui a lieu en deuxième année et qui s'insère à la jonction du cours de participation citoyenne et celui d'aménagement urbain qui viendra le semestre suivant. Et donc ce cours s'attache à initier les étudiants à une lecture critique des concepts et des outils qu'ils manient dans le cadre de leurs projets, par exemple ceux de participation, d'espace public, d'espace urbain, aussi de citoyens. Et il s'agit par là d'approfondir leur vision du projet d'aménagement urbain et de leur faire voir les injonctions contradictoires, le plus souvent, auxquelles ils sont confrontés en tant que praticiens, et de comprendre les limites, par exemple, des outils de co-conception qu'ils manient et qu'ils mettent en œuvre dans le cadre de cet aménagement d'espace public dit de proximité. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cours ? On invite en réalité les étudiants à mener une étude ethnographique dans un espace de la ville de leur choix, dont le but est évidemment de mettre l'ensemble des savoirs théoriques qu'on a vus ensemble en pratique. Et donc, ils choisissent soit un objet de la ville, soit un espace circonscrit. Et puis, l'idée, c'est premièrement de les amener à arpenter l'espace, parce que, comme je disais, c'est quelque chose qu'ils font très peu. En tant qu'ingénieurs, ils sont souvent derrière leurs écrans. Et donc, en fait, l'un des premiers objectifs du cours, c'est déjà simplement que les étudiants passent beaucoup de temps à arpenter la ville, le lieu qu'ils ont choisi, à y passer du temps et à observer finement ce qu'ils y voient, sans autre objectif qu'observer. C'est-à-dire se détacher de tous les objectifs qu'ils ont dans le cadre de leur projet d'aménagement urbain, et donc finalement de décrire dans un travail d'écriture et individuelle, ce qu'ils ont perçu dans cet espace, ce qu'ils ont vu et la manière dont les habitants se sont appropriés l'objet étudié ou l'espace, et donc de faire saillir un ensemble d'usages parfois détournés d'un lieu ou d'un objet. Et donc l'idée, c'est de vraiment réapprendre à lire l'espace pour imaginer d'autres possibles que ceux imposés par la commande. Alors, les difficultés rencontrées dans ce cours sont assez grandes pour nous, pour plusieurs raisons. D'abord parce que si pour l'équipe enseignante en sciences humaines et sociales, le cours d'anthropologie urbaine apparaît être une évidence En réalité, la communication avec l'ensemble des autres enseignements n'est pas si organique. Ensuite, il y a évidemment une difficulté à décadrer les modes de pensée habituels des étudiants et à transformer ces apports théoriques en leviers pour véritablement infléchir leurs pratiques, parce que ces apports ont parfois tendance à être perçus comme seulement théoriques, et finalement les ponts entre la théorie et la pratique restent quand même laborieusement jetés. Et puis, ensuite, ce cours s'inscrit dans un parcours que j'ai présenté auparavant, où la place des sciences humaines reste assez faible, et finalement l'acculturation à une discipline et à la critique est longue, et elle ne peut pas se faire sur une durée aussi courte qu'un cours de 18 heures. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le projet, l'étude ethnographique, peut se dérouler entre le début et la fin. Ça dure à peu près 4 mois, donc les étudiants ont quand même le temps de se rendre plusieurs fois sur les lieux et d'avoir le temps de mener une enquête, d'observer, de passer, de retourner plusieurs fois sur les lieux à des moments différents, etc. Et puis, on est aussi confronté à un profil d'étudiants qui a tendance à considérer les enseignements en SHS comme difficiles, voire inutiles, parce que finalement, ça vient interroger la rationalité technique et scientifique qui constitue la légitimité du métier d'ingénieur et qu'ils ont choisi. Donc en fait, on se frotte aussi à cette difficulté. Et pour terminer, quelques pistes de réflexion pour former les étudiants ingénieurs à la critique d'espace public. Bah, ça serait d'abord, au même titre que le font les écoles d'architecture et du paysage, d'introduire des sciences humaines et sociales dès la première année du cursus, de mieux arrimer théorie et pratique, de développer aussi des projets sur la durée. Et puis, je terminerai par ça, d'introduire vraiment de la pluridisciplinarité. Et là, effectivement, je pense que ça serait vraiment intéressant que les étudiants ingénieurs puissent travailler avec des architectes et des paysagistes, parce que souvent, ils ont cette perception technique de l'espace qui va finalement beaucoup contraindre les projets de l'autre côté, des architectes ou des paysagistes. Mais ils n'ont pas l'occasion de nourrir justement leur projet en tant qu'ingénieur de la vision des paysagistes et donc de rendre ces projets beaucoup plus féconds. Donc ça me semble indispensable. Et voilà, je terminerai par ça.
Bonjour. Alors bon, le document que je projette n'est pas tout à fait essentiel. Hein. D'ailleurs, je tiens à le dire tout de suite, il y aura plusieurs langues dedans. Je peux même vous avouer que j'ai emprunté 3 slides en ce qui concerne les Cinque Terre à Roberta Cevasco parce qu'ils illustraient mon propos sur ce temps-là. Et donc, il faudra être assez court. Je ne vais pas faire l'histoire du LASA où je travaille. Je vais juste rappeler, à la limite, les complicités avec Oliver Rackham puis Charles Watkins de l'Université de Nottingham, les liens très étroits avec la micro-histoire, l'insistance sur l'intérêt de la micro-analyse sociale et territoriale, le rôle de la revue Quadernista Ricci dans la diffusion mondiale de cette historiographie particulière. Je vais en faire une lecture assez réduite, assez rapide et personnelle, ancrée au possible dans la thématique de cette rencontre. On décale la focale cette fois-ci sur la montagne, un type particulier d'espace public, il y aurait beaucoup à dire, est-ce public ou non, notamment l'exemple des parcs naturels. On a pas mal discuté du problème de comment faire lien entre recherche et application, entre critique et aménagement, et à travers les recherches qu'on mène au LASA, pour lesquelles on convie généralement des étudiants à venir travailler avec nous et se former par la pratique du terrain, je vais énoncer quelques principes de ce que j'appellerais une histoire environnementale appliquée à l'aménagement des montagnes et notamment au paysage. Donc, une telle perspective s'inscrit avec pour base la critique. On pourrait déjà rappeler que les recherches menées à Nottingham dès les années 70 sur l'écologie historique des forêts anciennes s'inscrivaient en fait dans un contexte d'uniformisation encore galopante du territoire par l'agriculture intensive et notamment par la coupe de divers arbres anciens. Donc il y avait des formes de lutte territoriale à la base même de la recherche. Dans le cadre du LASA, on questionne les conséquences désastreuses de l'imposition des principes de l'économie politique en montagne et de l'urbanisation et industrialisation croissante annexe, alors qu'on constate que la richesse était promise, une richesse économique, mais qu'en fait le résultat en rétrospective sur un temps long, c'est l'exode rural, ce sont les exodes ruraux et l'abandon. On remet également en question les politiques de conservation et de patrimonialisation encore aujourd'hui à l'œuvre et qui font souvent fi des histoires locales et qui, finalement, dans la continuité de l'économie politique, tendent à brouiller les diversités pour appliquer des solutions génériques. Or, qui dit histoire critique dit histoire, et pour refaire sortir les particularités des écosystèmes locaux, c'est bien de l'histoire qu'il faut faire et de l'histoire locale. Une histoire qui croise les sources, soulignant la limite de chacune d'entre elles, qu'elle soit écrite, qu'elle soit cartographique, qu'elle soit orale, qu'elle soit architecturale, qu'elle soit végétale. En somme, on va aux archives, on marche beaucoup, et on interroge des personnes âgées. Et une histoire vraiment pluridisciplinaire, donc avec la participation de spécialistes d'archéobotanique, de géographie historique, d'écologie historique, d'archéologie du paysage. Et nous travaillons parfois sur des sites assez réduits, à l'échelle d'un versant, d'une vallée, au mieux d'une commune, mais d'une petite commune. Dans ces recherches collectives, en somme, on ne distingue pas paysage naturel et paysage culturel. On considère que toute écologie du paysage est une écologie historique, ne serait-ce que par les effets de ce qu'on pourrait appeler une histoire connectée du paysage. Qu'est-ce qu'on pourrait appliquer ? Est-ce qu'on pourrait appliquer une histoire critique, toujours collective, car il faut beaucoup de main-d'œuvre pour faire de la micro-analyse à des échelles topographiques ? Je ne vais pas faire un inventaire des études de cas menées. Il y en a beaucoup dans les Apennins ligures, auxquelles participent notamment des étudiants anglais. Il y en a également en Norvège, il y en a eu dans les Pays basques. Et moi-même, actuellement, m'occupe de deux petites communes dans les Pyrénées catalanes, en Haute-Cerdagne, et d'une petite commune dans la Sierra Nevada, en Andalousie. Et pour ma part, je me concentre plus spécifiquement sur les canaux d'irrigation et sur les liens entre évolution des régimes de propriété et évolution du paysage et des écosystèmes locaux. La recherche montre à chaque fois des configurations diverses, voire même des pratiques sociales bien différenciées selon les lieux. Et on peut dire qu'en revanche, pour chaque situation, on observe dans le passé des processus de biodiversification du fait de certaines pratiques à long terme, mais également à court terme, car c'est une évidence, bien évidemment ici, le paysage n'a jamais été une réalité immuable, mais une dynamique, et il ne faut pas non plus négliger les transformations conjoncturelles qui ont laissé des traces moins évidentes, voire bien plus difficiles à trouver. Je pense aux cultures temporaires de l'époque moderne, ce genre de thématique malheureusement laissée de côté par des historiens du paysage particulièrement génériques, comme Emilio Sereni, qui a fait des choses bonnes par ailleurs. Il faut mettre en tout cas en évidence les transformations, une réalité mixte faite de rotations, des pâturages arborés, se mêlant de terres défrichées, également des alpages, une diversité qui permettait en tout cas une coexistence d'espèces aux exigences écologiques différentes. Ces différents systèmes historiques, agro-silvo-pastoraux, ont généralement été abandonnés courant 19e, 20e siècle, du fait de l'imposition d'un autre modèle d'agriculture et de l'imposition exclusive d'un type de propriété, la propriété privée moderne. Mais on aurait pourtant tort de laisser de côté l'histoire dynamique qui a précédé cet abandon, les techniques de défrichement, de rotation et l'importance de ces systèmes mixtes. Et pourtant, dans les politiques actuelles de conservation et de protection de la nature, c'est souvent ce qui est fait. Le lieu commun, c'est le suivant. Parce qu'en fait, la renaturalisation, c'est joli. C'est forcément quelque chose de bien. On dit même ce truc un peu bizarre, la nature reprend ses droits. Il y a un imaginaire tout à fait positif autour de ce phénomène. Les arbres, c'est beau, c'est bien, je suis tout à fait d'accord. Mais quand la reforestation arrive du fait d'un abandon paysager ou après un abandon paysager, voilà que poussent des forêts sur des sols qui, où il y avait des pâturages, en fait, pendant des centaines, voire des milliers d'années, donc sur des sols qui ont des phases érosives et des cycles sédimentaires déterminés par des pratiques d'activation qui les ont rendus, certes, stables, mais en fait assez subtiles. Conséquence, quand on a une forêt qui pousse, quand on reforeste sur cela, eh bien des arbres qui pèsent lourd sur des sols qui ne le supportent pas et qui n'ont pas le temps de s'adapter provoquent des risques. Bien évidemment, ça s'effondre en cas de tempête. D'autres risques, c'est que la reforestation est à son tour abandonnée, donc ça sèche, ça se multiplie et voilà les incendies. Voilà que ça facilite les risques d'incendie. Et en plus, rajoutez à cela que si vous mettez en fait plein de bois à côté avec pas mal d'incendies, ça fait une grande chaleur dans des forêts de pins. Et du coup, le sol chauffe à une telle chaleur qu'en fait, il est rendu stérile pour beaucoup d'années. On est très loin des feux contrôlés d'il y a 300 ans, où là, qui nécessitaient des connaissances écosystémiques particulièrement poussées, qu'on a mises de côté, qu'on a volontairement ignorées. Risque, quand il pleut également, des sols fragilisés. Des sols fragilisés et donc des inondations. Alors qu'il y a quand même quelque chose d'assez révélateur, c'est que partout les promoteurs de l'économie politique, de la physiocratie, puis des théories libérales, ont toujours accusé le berger, le méchant berger, en plus il est à moitié semi-nomade, etc. Donc le berger c'est un problème, c'est pas quelque chose qu'on contrôle pour un État, et vu que l'État est en pleine ascension et développement et volonté de contrôle, le berger, c'est l'ennemi. Alors on accuse le berger, avec ses pâturages, de faciliter les inondations. Dans les Cévennes, on le fait. Et c'est vrai que depuis qu'il y a la reforestation partout dans les Cévennes, les inondations ne touchent pas du tout la vallée de Valrhog. On l'a bien vu. Donc, en fait, on s'en fiche de PowerPoint. Allez, ça sert à rien. Donc voilà, ça n'a pas fini cette question des inondations, malgré plein d'arbres, etc. Et en plus, ils s'effondrent, vous les voyez, au milieu de la route. Élisée Reclus, fin 19e siècle, avait vanté les mérites du sentiment moderne de la nature, sentiment qui se développait en réaction à la société industrielle. Il y voyait des possibilités révolutionnaires, et je suis assez d'accord avec lui. Mais Reclus savait aussi très bien, d'ailleurs, que nombre de paysages dits naturels dépendaient des pratiques sociales. Qu'une critique des paysages n'est jamais une critique du paysage, c'est une critique du monde social qui l'a produit. À la fin des années 1930, Bernard Charbonneau, quant à lui, s'attaquait aux touristes qui venaient détruire l'objet de leur désir, une nature réifiée. Il appelait ça la déviance du sentiment moderne de la nature. Le corollaire d'une telle déviance, pour parler ainsi, c'est une conception fantasmagorique d'un paysage soi-disant naturel, mais d'une fantasmagorie qui a quand même la particularité de mépriser son propre objet de projection. Comme dans certaines peintures de paysages au début de l'époque moderne, dans lesquelles on y voyait des arbres, des haies, mais pas souvent de travailleurs au labeur, il y a une tendance contemporaine à vouloir du paysage de montagne, tout en ayant relégué le paysan de ce paysage dans la cage d'un écomusée. On met donc de côté le caractère historique des sites, et on termine parfois par laisser se propager un abandon périlleux ou par pratiquer des reforestations parfois critiquables. Une dite finalement renaturalisation, comme l'expression d'une nature, encore une fois, qui reprendrait ses droits. Mais il s'agit là d'une forme de fausse conscience, pour reprendre l'expression de Gabel, mais une fausse conscience naturaliste, cette fois-ci, ou plutôt, si je pouvais le dire ainsi, un éco-blanchiment de la fausse conscience. Une éviction de la dialectique qui permet d'éluder la question des liens entre paysage et pratique sociale, la question des façons de produire et de vivre et de leur impact sur nos milieux. Et quand parfois l'histoire est utilisée, c'est pour mieux la muséifier, la figer, l'instrumentaliser pour inventer une tradition, pour se moquer d'un passé ou au contraire pour le mystifier. On fige l'histoire et à l'histoire on y préfère bien évidemment l'image. Comme dans les Cinque Terre, par exemple, vous connaissez la question, les Cinque Terre. Alors je vous passe le commentaire de ce type de diapo. Cinque Terre, parc naturel protégé, où aujourd'hui il y a une monoculture viticole qui se mêle en fait de terres abandonnées et dont et donc à une certaine couverture végétale qui n'est pas sans risque. Mais ça fonctionne bien, hein, selon le cadrage de la photo, selon là où on se place, selon la focale choisie, ça fait des belles cartes postales. Et en maillot de bain, on pourra mettre des chaussures de marche pour aller marcher en bord de mer ou passer de toute façon de gare en petite gare, de villages eux-mêmes figés et muséifiés. On pourrait pourtant insister sur plusieurs éléments historiques, ne serait-ce que sur la présence de rotation de culture par le passé et sur le fait que l'hiver, il y avait des bergers qui descendaient des montagnes pour aller faire pâturer leurs bêtes dans des champs, dans des pâturages arborés, au milieu déjà des vignes. Et qu'en l'occurrence, cette dynamique agro-silvopastorale n'y est pas non plus pour rien dans la richesse de la biodiversité qu'on vante dans les Cinque Terre. Mais dans une optique de protection moins figée de la nature, on devrait peut-être y penser pour l'avenir. Parce que quand ces pratiques s'arrêtent, il n'est pas dit que le musée ait des processus de biodiversification aussi propices à des cultures de vin d'ici 50 ans. Mais non. Et je pense qu'il me reste 2 minutes, donc je vais aller vite. Mais non. Non, et je vais quand même en revenir à cette question de l'enseignement et à cette question, malgré toutes ces tergiversations et ces circonvolutions. Je vais rejoindre ce que disait Éric Chauvier hier lorsqu'il paraphrasait Karl Marx. La bourgeoisie a dit « il y a eu de l'histoire, il n'y en a plus ». Alors moi, je vais défendre un peu mon territoire. Une autre forme de lutte territoriale qui est « mon territoire, c'est l'histoire ». Mais d'une histoire critique qui se mêle d'écologie historique, d'archéologie du paysage, d'architecture rurale, d'anthropologie, de géographie, etc. Et pourquoi pas d'une histoire dont les paysagistes, dont les étudiants en paysage pourraient s'emparer pour en faire une histoire environnementale appliquée. Et puisque les bergers étaient des paysagistes, d'ailleurs aujourd'hui certaines instances l'ont compris, vu qu'ils versent des primes pour que certains bergers continuent d'aller faire pâturer leurs moutons sur telle ou telle zone de montagne, mais puisque ces bergers étaient des paysagistes, tout à fait légitimes. Mais qu'aujourd'hui, la figure du paysan paysagiste est morte tout autant que la figure du paysan. Alors pourquoi ne pas imaginer peut-être que demain, ce sera au paysagiste de devenir berger ? Alors, bon, non, je ne vous demande pas tout de suite de quitter les bancs de Blois, etc., de bifurquer, de déserter et de quitter cette salle chauffée pour aller vivre les 12 hivers du Cosméjean, ni pour aller participer au doux travail d'un curage de canal à 1500 mètres d'altitude, début mars en Haute-Cerdagne. D'autant que la présence de 2 stations de ski ont rendu le foncier un peu cher, donc vous allez galérer. Mais sans aller jusque-là, il existe en tout cas des équipes de recherche pour faire perdurer des formations de terrain et d'accueillir des étudiants, mais c'est aussi un appel à plein de collègues praticiens, concepteurs ou non, car les cas ne manquent pas. Et quand on s'adonne à la micro-analyse dans une perspective d'histoire critique appliquée au paysage, il y a paradoxalement besoin de beaucoup plus de main-d'œuvre que pour l'histoire locale. Et je pourrais vous faire rencontrer Simone. Elle est sympa. Merci.
Merci à tous les quatre et puis surtout pour le respect du timing, donc qui nous laisse un petit peu de temps pour des questions. Et on va peut-être d'abord prendre un petit temps, comme on l'a fait hier, peut-être de discussion un peu entre vous et de réaction par vos interventions, si vous avez des éléments de réflexion que vous aimeriez partager.
Non, c'est juste une réaction par rapport à votre constat initial que c'était que les SHS qui faisaient de la critique dans l'enseignement de projet. Je trouve que c'est assez flagrant quand même. Donc ça, je pense que ça interroge. Et ça interroge, ma voisine a partagé un peu cette difficulté à trouver la place des sciences humaines et sociales dans les écoles de projet. Il y a une histoire de ça aussi qui serait très intéressante à faire et qui permettrait aussi de renouer, peut-être de retrouver confiance et de réouvrir des chemins, ce que tu demandais à la fin. On reconstruit finalement le lien entre les SHS et l'enseignement de projet depuis une quinzaine d'années, j'ai envie de dire, je pense. Après que les SHS aient été foutues dehors, en fait, en gros, hein, des écoles de projet, pour le dire clairement, parce qu'elles ont été un peu loin, quoi. Moi, quand j'ai commencé à enseigner, mes collègues un peu plus âgés, paysagistes de renom, qui me disaient « mais les SHS, ça empêche de faire du projet, quoi ». Je dis « bah non, Jean-Pierre ou Alain, c'est pas ça ». On a au contraire, enfin, je veux dire, aujourd'hui, on assume, je pense. Je pense qu'en tout cas, sur ce qui est de l'école Versailles-Marseille, je pense qu'on est clair, mais je crois que toutes les écoles aujourd'hui ont des singularités, mais quand même des parcours là-dessus, qu'on assume une forme d'instrumentation ou d'instrumentalisation plutôt des sciences humaines et sociales. C'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot de dire qu'elles sont des instruments et qu'elles peuvent être et critiques et instrumentales. Et moi, je crois beaucoup à cette logique-là. Elles sont absolument pas contradictoires. Donc voilà, je pense qu'il faut que nous aussi on montre, et je trouve intéressant ce que tu as dit aussi dans la question d'arrimer la théorie et la pratique, la question finalement d'ouvrir des liens, d'ouvrir des canaux de discussion avec les étudiants qui a priori ne veulent pas venir sur ces sujets-là. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Et donc ça suppose que les CHS évoluent aussi de leur côté, qu'elles acceptent de contribuer au faire, à la réflexion, à la stratégie. Ça suppose aussi que nos amis concepteurs, et on est quand même un certain nombre à être un peu les deux, donc je pense que ça aide aussi. Ça suppose aussi voilà, un regard qui évolue, et je pense que les générations d'aujourd'hui, je ne sais pas si les enseignants d'aujourd'hui sont dans cette logique-là, mais je peux dire c'est que les étudiants d'aujourd'hui le sont absolument. C'est-à-dire que la question des SHS, elle vient aussi, et elle se redéveloppe dans les écoles de projet en réponse à une attente. Un besoin de se situer dans la société et de situer son acte professionnel dans la société, que je trouve, en tout cas moi que j'ai pu voir, augmenter très fortement et pour le moment qui ne se tarit pas. Donc voilà, je pense qu'il y a un vrai sujet de collaboration là, par la critique, mais pas seulement, et pas vraiment par la collaboration.
Oui, merci beaucoup pour vos présentations complémentaires. Donc, on m'a demandé de me présenter. Donc, je suis paysagiste et docteur en CIF en Centre-Bretagne. Ma question était plus pour Quentin et Étienne. Quentin, dans les cartes participatives qui ont été montrées, on a vu qu'il y avait une récurrence de localisation sur la Grande Rue. Et je me demandais s'il y avait eu un travail de dézoomage sur cette carte-là qui avait été fait. Parce qu'on peut toujours s'interroger sur, notamment dans le cadre de Petit Vide et Demain et autres, comment le secteur de Centre-Bourg est délimité. Donc voilà, est-ce qu'il y a eu un travail d'aller au-delà du zonage et de cet aspect quotidien? Et Étienne, comment on explique cette récurrence finalement de ces lieux analysés? Donc c'est un peu, comment est-ce qu'on analyse cette récurrence des lieux analysés par les étudiants? Est-ce que finalement on n'observe pas des typologies qui se répètent aussi au-delà des séparations entre espaces publics et autres? Mais merci pour vos présentations complémentaires.
Oui. Alors, du coup, la récurrence des points au même endroit. Alors, du coup, c'est pas par rapport à un périmètre administratif qui avait été décidé avant. Nous, on est vraiment parti du récit des habitants et des usagers qu'on a rencontrés. Et après, on a spatialisé leurs propos. Et si leurs propos étaient spécialisés essentiellement sur le centre-bourg, comme je l'ai montré ici, c'est parce que c'est ce qui correspondait, je pense, pour eux, à un symbole un peu à revitaliser. Mais il y avait des points aussi en dehors du centre-bourg qu'on a pris en compte, notamment par rapport à la vitesse d'arrivée sur une grande route où on avait des pointes à 120 km/h sur une route à 50. Enfin, voilà. Mais du coup, c'est comment est-ce qu'on prend tout ça en compte, donc avec la chef de projet, du coup, avec un bureau d'études ensuite, que bah, finalement, ces problématiques-là, comment est-ce qu'on peut réussir à les transmettre à des professionnels urbanistes, paysagistes, etc. Et avec le budget qu'ont aussi les bureaux d'études et le peu de participation finalement qui mettent en place. Donc c'est un peu tous les questionnements qui sous-tendent en fait juste une démarche de construction. C'est le temps qu'on y passe derrière et comment est-ce qu'on déstandardise un peu les projets d'espace public.
Merci pour la question. Alors moi, je répondrai aux questions uniquement quand j'aurai récupéré mes exemplaires de récits critiques. Ils sont là, super, c'est bon, alors je peux y aller. Merci, non, ça va. C'est précieux, en fait, c'est pour ça que je les ramène. Merci beaucoup. Je vérifierai après qu'ils sont tous là. Juste sur la récurrence, non, il n'y a pas tant de récurrence que ça. C'est vrai que j'ai cité quelques projets. Pourquoi ils sont choisis un peu plus souvent que les autres? Ben, je crois que c'est, faut être honnête, c'est d'abord pour l'étudiant la garantie que c'est sur ces projets-là, il y a déjà de la documentation disponible. Voilà, faut le dire clairement. Et après, il peut y avoir une appétence pour les grands projets, effectivement, ceux qui sont très marquants. Si je prends le Paillon, par exemple, sans juger de sa qualité ou pas, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui a transformé assez fortement presque même la vie, en fait, hein, des habitants du centre-ville de Nice. Et donc, il y a quelque chose qui marque, et quelque chose qui est fort, et l'étudiant, ça va l'intéresser. Moi, je ne décourage pas ça. Je trouve que c'est intéressant d'aller chercher aussi des projets marquants. C'est souvent intéressant aussi pour l'étudiant, c'est une forme aussi de réassurance, de dire que, bah ouais, quand même, ça sert à quelque chose d'être paysagiste. Et donc, je trouve intéressant, si l'étudiant ressent ce besoin d'aller chercher un grand projet très, très visible, ça ne me dérange pas. Voilà, j'interdis au bout d'un moment parce que j'en peux plus, c'est moi, quoi. C'est vraiment purement personnel. Et après, c'est vrai que certains étudiants vont choisir plutôt des petits projets, donc il y a aussi beaucoup de petites choses, ou des plus petites choses en tout cas, et sur lesquelles, donc je leur dis au début, bah, ok, c'est super, mais est-ce que tu es bien conscient que là, pour aller documenter, il va falloir bosser un peu plus ? Et généralement, ça les décourage pas. Donc j'ai aussi beaucoup de petites choses, parfois. J'évite les choses vraiment anecdotiques. Voilà, le rond-point d'une entrée de ville, j'essaye de ne pas le prendre. Enfin, on pourrait, hein, très sincèrement, on pourrait, mais bon, il y a un moment où il y a vraiment une dimension quand même de transformation un peu plus structurante, quoi, que j'essaye d'avoir. Voilà.
Ça, c'est bon ? Ouais. Frédéric Pouzin. Oui, merci pour vos exposés. Et j'ai une question pour Étienne Ballon. À la fin de ton propos, tu as parlé de la réplicabilité de l'exercice de critique en disant que ce n'était pas évident. Et pour moi, c'est une question importante. J'aimerais d'abord m'assurer que j'ai bien compris de quoi il s'agit, parce qu'en fait, la réplicabilité de l'exercice, elle existe dans le milieu pédagogique sans problème, on l'a vu. Donc, c'est bien d'une réplicabilité dans un autre domaine, dans un autre contexte. Et c'est celle, justement, de la réplicabilité, notamment en contexte professionnel. Et ça vient quelque part contredire, enfin, peut-être pas le mot contradiction est peut-être un peu fort, mais enfin, en tous les cas, le propos qu'a présenté ce matin Denis, où il y avait une très grande fluidité entre l'enseignement et puis l'exercice critique de projet dans la pratique professionnelle, fluidité qu'on a vue hier aussi à l'œuvre dans l'exposé de Léa Hommage. Mais moi, ma question est celle-ci, c'est est-ce que cette fluidité, elle n'est pas un peu idiosyncrasique, c'est-à-dire propre à certaines personnes qui ont suivi un parcours particulier, etc. Et est-ce que ce passage d'un domaine à l'autre ne devrait pas être un lieu d'interrogation, en tous les cas, qu'on s'y penche de près. Parce que quand on voit du côté des ingénieurs, la possibilité de réplicabilité, elle n'est pas du tout évidente. Et puis, sur la pratique d'une histoire critique me paraît aussi être d'un tout autre ordre. Enfin, voilà, ma question porte sur ce passage d'un exercice critique qui serait développé au sein d'un milieu de l'enseignement vers un autre milieu.
Alors, pour te répondre, moi, j'essayais. Enfin, pour moi, c'est une vraie question, justement, ça. Alors, ce que je voulais juste te dire, c'est que j'interrogeais cette réplicabilité. Et je ne me fais pas d'illusions, je ne pense pas que l'exercice va être reproduit tel quel, bien entendu, dans le champ professionnel. Ma question, c'est qu'est-ce qu'il en reste ? Et pour moi, l'étudiant peut prendre deux chemins. Je vais très, très vite. Premier chemin, c'est je l'ai fait une fois. Donc, en gros, j'ai acquis suffisamment de connaissances sur les projets pour le faire plus vite et du coup, quelque part, louper quelque chose. Ou au contraire, j'ai compris à quel point c'était un travail de longue haleine et exigeant. Et du coup, je vais y consacrer beaucoup de temps dans ma pratique. Et pour moi, j'ai l'impression, je me questionne sur ce que font les étudiants de cet exercice après dans le monde professionnel. Est-ce qu'ils vont choisir la première option ? J'ai déjà fait, ça va, je vais vite. Ou au contraire, la deuxième, j'ai déjà fait, je sais qu'il faut du temps pour le faire. Qui est peut-être un peu plus la démarche de Denis ou d'autres professionnels.
Oui. Alors, moi, c'est une question-réaction par rapport à la présentation de Quentin, par rapport à la différence entre instrument et instrumentalisation, notamment là, donc, de la participation, auquel je croyais énormément. Pour avoir travaillé dans le Nord longtemps sur les friches industrielles, j'étais branché sur l'écologie et le social. Et pour moi, l'essentiel, c'est que les gens participent, co-construisent. Voilà. Donc j'y croyais complètement, très naïvement. Jusqu'au jour à Grande-Synthe, donc dans le Nord, j'ai fait un projet de jardin des mariages, qui était un projet de co-construction avec tous des habitants. Et on a travaillé longtemps. Ça a pris beaucoup de temps pour un tout petit machin qui était devant une église sur une toute petite placette. Et puis, à l'issue d'énormément de discussions, on a fini par sortir quelque chose. Tout le monde est assez content. Ça a été réalisé. Et j'étais appelé en catastrophe 15 jours après par la mairie qui a dit « C'est terrible, c'est pas le jardin des mariages. Tous les habitants ont appelé ça le jardin des divorces. » Non, mais c'est assez intéressant. C'est vraiment un signe intéressant parce que je dis on ne pouvait pas faire plus mariage puisque je n'ai fait que travailler avec les habitants. Et alors, c'est là que j'ai découvert que les gens avec qui je travaillais, c'était des super habitants, effectivement. C'est-à-dire que ceux qui étaient professionnels de la concertation, mais pas du tout le quartier, en fait. Donc, ça a posé réellement la question de la légitimité. Et je pense que la logique de l'élu, les postes qu'on occupe, ont une certaine logique aussi. Et il faut relativiser cette question-là. Enfin, moi, je suis tombé des nues en disant, mince, moi, je pensais vraiment avoir fait le jardin des mariages. Et je trouvais que c'était une très belle réponse de la population de dire, non, c'est le jardin des divorces. Parce que tout d'un coup, on se rendait compte que non, l'appropriation n'était pas celle-là. Et qu'il y avait aussi donc une posture critique des sciences humaines et sociales par rapport à elles-mêmes aussi. Voilà.
Moi, j'ai une petite question pour Fanny. En fait, j'ai pas très bien compris l'enjeu de ce que vous faites parce que je ne sais pas ce que c'est qu'un ingénieur en génie urbain. Donc, j'aimerais bien simplement que vous nous l'expliquiez. C'est vraiment une question de compréhension. Et donc, finalement, quand vous venez dans ces états généraux, qu'est-ce que vous en attendez, vous ? Est-ce que vous pensez que cette formation d'ingénieur en génie urbain peut, effectivement, même avec les pauvres 18 heures que vous avez, devenir quelque chose qui aurait à voir ou pourrait travailler avec ce que font des paysagistes. Voilà. Et ensuite, j'ai une question alors, plus générale qui s'adresse en fait à vous quatre, mais qui est difficile à formuler. J'essaye quand même. Étienne a redit que l'histoire de la présence de l'enseignement des sciences humaines et sociales dans les écoles de projet, c'est une histoire complexe, une histoire déjà longue. C'est l'histoire d'un divorce, là, justement, et peut-être aujourd'hui d'un remariage. Mais il me semble que ce qui a un peu compliqué le dialogue, alors c'est peut-être des formes de rejet que tu as évoquées par une frange de la profession, mais c'est peut-être aussi une orientation épistémologique des sciences sociales, très marquée, je pense. Alors c'est très daté ce que je veux dire, mais c'est un peu comme ça que moi, quand j'étais étudiant, je l'ai vécu par la pensée de Bourdieu et par, ça a été redit, cette idée que, en fait, l'espace n'a pas de consistance, c'est une construction sociale, purement et simplement, si j'ai bien compris votre propos, vous vous inscrivez dans cette... Et alors, évidemment, à partir de ce moment-là, le dialogue avec des conceptrices et des concepteurs dont le matériau de travail est en fait la spatialité, une spatialité qui est pensée quelque part en deçà ou au-delà, je ne sais pas, des déterminations sociales, devient problématique. Et il me semble que c'est cette articulation-là qu'il faut peut-être réinterroger. On ne va pas le faire maintenant, bien sûr. Mais je pense que là, il y a un sujet un peu à traiter, parce que sinon, ça restera, à mon avis, très compliqué.
Oui, mais c'est juste pour compléter la question de Denis pour Fanny. Il y a un partenariat, j'enseigne à la Villette... Il y a un partenariat de Bicursus pour des étudiants architectes qui ont une partie de leur cursus à l'EIVP. Et je voulais savoir si vous identifiez dans votre pratique, enfin si, au passé, puisque vous êtes maintenant ailleurs, mais si vous avez identifié ces étudiants et s'ils sont différents, évidemment. Ça complète, c'est la même question, mais ça complète.
Oui, tout à fait. Alors, pour répondre à la première question, effectivement, j'ai pas décrit ce que faisaient exactement les ingénieurs en génie urbain, mais en fait, ce sont des techniciens qui fabriquent la ville d'un point de vue technique, donc qui s'intéressent à la voirie, aux matériaux des voiries, aux canalisations, au nivellement, à la mobilité et au transport également. Enfin, c'est assez large, mais ça découpe la ville en termes de métabolisme urbain, de mobilité et de transport. d'espaces verts, etc. Donc voilà, c'est... Mais ils ont un rôle majeur, en fait, dans le... dans la fabrication de cette ville. Et du coup, pour répondre à la seconde question, je pense effectivement qu'ils gagneraient à travailler au moins dans certains projets de manière beaucoup plus rapprochée avec les architectes et les ingénieurs, puisque c'est eux ensuite qui vont, pour certains, construire les propositions et qui vont pouvoir parfois les infléchir dans un mauvais sens ou affirmer de manière assez péremptoire que ce n'est pas possible de faire telle ou telle chose pour telle raison technique. Donc je pense qu'ils gagneraient vraiment tous à travailler ensemble pour aussi que les paysagistes et les architectes comprennent les contraintes techniques auxquelles on peut être confronté quand on aménage l'espace. Donc effectivement, moi je pense que tout ça doit travailler ensemble à un moment donné aussi parce que dans le milieu professionnel, ils sont amenés à travailler ensemble. Enfin, ils devraient en tout cas d'un point de vue idéal. Donc je pense qu'effectivement, les sciences humaines et sociales et la critique des projets d'espace public a toute sa place dans une école qui forme précisément des techniciens à fabriquer la ville. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec le cours d'anthropologie urbaine. Et par ailleurs, on voit aussi qu'on n'a pas suffisamment de temps. Et c'est ce qui fait aussi que c'est très difficile de pouvoir développer cette critique chez les étudiants. Mais en réalité, ils sont très intéressés par ces processus de co-construction. Donc si on leur... Si on pouvait prendre du temps pour avoir un regard critique sur ces process et voir comment les améliorer, je pense qu'ils seraient tout à fait intéressés. C'est simplement qu'on n'a pas l'espace et le temps pour développer ce type d'enseignement. Dernièrement, pour terminer, en fait, les étudiants en bicursus ne participent pas aux cours d'anthropologie parce qu'ils en ont déjà beaucoup dans leur école. Donc malheureusement, ça... Voilà.
Ok, eh ben, je vais essayer de faire rapidement. Du coup, dans ma thèse, j'ai commencé par la critique de la co-construction des projets. Et par rapport à la diapo que je montrais tout à l'heure, c'est qu'en fait, effectivement, on est souvent dans une coopération symbolique où en fait, on n'a que les habitués de la participation. Et juste pour donner une anecdote rapide, lors de ma soutenance de thèse, je présentais une diapositive sur la participation des publics et en disant qu'effectivement, c'était beaucoup quand même de retraités, plutôt profession libérale, avec un capital social et culturel, etc. Ce à quoi m'a fait souligner le jury en me disant qu'il n'y avait que des cheveux blancs qui étaient présents dans la salle. Et du coup, j'ai pu dire que j'ai les cheveux blancs aussi, mais je suis jeune. Mais bref, rapidement, c'est aussi pour dire que en fait, on a des difficultés aussi à construire du coup, avec d'autres publics, et que même si on construit avec d'autres publics une diversification, finalement, il y a toujours des pas contents, et c'est comment faire avec.
Oui, ça parlait de Bourdieu, etc. Après, paysage, construction sociale, pas du tout au sens de Boltanski, construction sociale de la réalité, mais non, plutôt le paysage qui a une rugosité qui dépend d'un processus historique de sélection et d'activation de ressources naturelles et donc qui dépend de pratiques sociales. Hein. Donc là, on est vraiment dans un autre courant. Et sur la question de l'application de la SHS et conception, il y a eu des tentatives par Massimo Quaini au LASA dans les années 90 et de proposer aux aménageurs de vouloir faire de l'histoire appliquée. Au final, les historiens sont toujours renvoyés par les aménageurs en général comme l'histoire publique. C'est comme dans l'histoire publique, donc on les prend comme faire-valoir où tout d'un coup, en fait, l'histoire, c'est de la mémoire où ça suffit à faire des belles photos de paysans qu'on dit « Regardez, c'était là avant ». Or, il ne s'agit pas de faire d'histoire publique, de faire les faire-valoir de publicitaire d'un espèce de marketing aménageur, mais de faire de l'histoire environnementale appliquée, et donc forcément critique et radicale.
Oui, enfin, en même temps, ça me fait bizarre de poser une question, sachant que je ne vais pas avoir la réponse. Mais bon, je le fais quand même, je le ferai toujours. Non, je voulais savoir, Étienne, tu demandes la manière dont l'exercice est formaté, ça fait quand même penser à une préparation d'article. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour faire un article, donc je me demande si tu y as pensé, comment ça se diffuse, comment ça se... Voilà. Non, tu ne pourras pas me répondre, c'est dommage. Et j'avais une question, alors là, plus théorique pour, comment s'appelle-t-il, Nathan. Parce que je n'ai pas très bien saisi dans la présentation. En fait, il me me semblait qu'il y avait une... Ça a commencé par le terme de micro-histoire, et puis après, c'est parti sur l'histoire locale. Moi, je ne suis pas historienne hein, du tout, mais pour moi, dans mes catégories, ce n'est pas exactement la même démarche. Et autant la micro-histoire, elle s'est expliquée elle-même hein, sur sa capacité critique, hein, sur son rôle critique, autant je ne connais pas, en fait... ce qui fonde la posture critique de l'histoire locale. Donc, voilà.
Par rapport à la thématique de l'enseignement de la critique dans les écoles, une des pistes qu'on pourrait explorer, ce serait celle de favoriser l'intégration entre la démarche de conception et la démarche critique. Hier, un étudiant disait qu'en école... Non, c'était ce matin. Un étudiant disait qu'en école d'architecture, il y a la sollicitation, la référence qui est beaucoup plus présente. Est-ce que, voilà, on ne pourrait pas s'appuyer sur cette idée-là ? C'est-à-dire, à un moment du projet, on fait une pause, on va aller critiquer. Mais vous le disiez, hein, Étienne, de s'appuyer sur la thématique en cours, donc là, sur les parcs. Mais là, ce serait peut-être sur une temporalité encore plus serrée. Et ce ne serait pas un exercice critique au long cours, ce serait une journée, deux journées. Voilà, pour nourrir. Et puis nous, au sein de l'école, là, on réfléchit à une nouvelle maquette M1 et M2. Et il y a des enseignants un enseignant en particulier qui nous suggérait de prendre un temps à la fin des projets pour avoir un recul critique sur les thématiques qui sont lancées. Et donc ça pourrait être aussi ça, d'avoir cet exercice critique voilà, en milieu de projet et en fin de projet, mais vraiment sur des temporalités courtes.
Juste deux remarques. La première sur pour faire le lien entre l'enseignement de la critique de projet et ce qui était dit hier sur l'importance de pas seulement amener les étudiants sur le projet lui-même, mais sur vraiment tout le processus sur le long terme. Enfin, dans les dossiers qu'on a vu passer d'ailleurs, c'était vraiment pris en compte, et y compris le contexte d'émergence du projet, comment il a fait tache d'huile, comment il s'est diffusé, comment il a résonné avec le reste de la commune pour aller en fait au-delà du projet. Dans la critique, ça c'était une première remarque. Et la deuxième remarque, je trouve ça intéressant, le dialogue sous-jacent un petit peu entre enseignement technique, sciences de l'ingénieur, sciences de l'écologie, etc., et les sciences sociales et humaines. Et l'importance quand même que le débat critique ne soit pas toujours porté, demandé, soutenu, pratiqué par les sciences sociales et humaines, mais soit, bien, comme on l'a dit, dans tous les acteurs et dans toutes les disciplines, voilà, enfin, les acteurs sur le terrain, mais comme on est dans l'enseignement, là, surtout dans toutes les disciplines. C'est-à-dire, évidemment, il n'y a pas de fait, il n'y a pas une technique qui va de soi, qui n'est pas sa propre histoire, qui n'est pas ses propres écoles, ses propres tendances, etc. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué. On voit bien, y compris chez les étudiants, c'est-à-dire qu'il y a des disciplines molles où on discute de tout, on critique de tout, et puis il y en a d'autres, non, il n'y a que des évidences.
Moi, ma remarque va plutôt aussi à Quentin Brouard, c'est un peu la suite de François-Xavier Mousquet, sur... quand j'entends vos explications, j'ai l'impression d'être noyé. C'est-à-dire qu'il y a une multitude de systèmes d'approche, j'ai l'impression d'une usine à gaz invraisemblable. Je ne sais pas de quoi elle accouche, parce que vous nous expliquez en gros rien des aboutissements. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est une histoire positive. On raconte ce qu'on a fait, on voit les conséquences, et c'est bien. Pas quelque chose où on nous raconte qu'à la fin, finalement, on n'a pas touché les gens qu'il fallait, parce que tous les gens un peu pauvres, on ne les a pas vus, qu'ils ne reviennent pas, parce que... Alors, est-ce qu'ils se sont emmerdés la première fois ? Et que finalement, la seule petite chose qui était dite, peut-être... On s'attaque à un arbre. Je dis, mais où on est là ? À quelle échelle on est ? Moi, je suis un peu sceptique sur la multiplicité des approches qui mènent à rien. J'ai fait moi-même des études, des projets de plans de paysage. Un an et demi d'un travail fou, des piles de travaux, ça n'a abouti à rien. J'en ai fait une.
Bonjour. Moi, je suis étudiante en DEP2 du coup à Blois. Et ma question s'adresse plutôt pour Quentin. Enfin, en fait, c'est plutôt un retour d'expérience. Moi, l'année dernière, j'étais en stage au CAUE de Loire-Atlantique. Et en fait, j'ai vu, par exemple, dans des communes vraiment paumées du nord du département, comme par exemple à Gens, je crois qu'ils avaient fait des concertations avec les citoyens. Et par exemple, ils voulaient mettre une boulangerie. Et puis les bureaux d'études prospectives économiques, enfin je sais plus quoi, leur ont dit ça va pas être possible en fait parce que la commune d'à côté est trop dynamique, ça fonctionnera pas. Ou alors par exemple à Saint-Julien-de-Vouvante où en fait ils vont mettre des logements sociaux pour désengorger Châteaubriant et que du coup en fait le projet en fait de revitalisation de centre-bourg, il était un peu coincé dans un paradoxe où pour en fait on leur disait soit vous n'êtes pas assez dynamique pour dynamiser votre centre-bourg ou alors ça dépend d'une décentralisation qui dépend pas trop de vous et que peut-être par rapport à la démarche participative ça peut peut-être mener à une forme de désarroi et de frustration parce qu'en fait on peut pas faire forcément ce qu'on veut et je sais pas si vous aviez vu ça dans votre démarche critique. Voilà.
Les états généraux de la critique du projet d'espace public, un podcast réalisé par Charlotte Mutel de l'association La Vitrine Itinérante.